midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Dessous de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour et bienvenue, bon week-end, ravi de vous retrouver. Manuel Mariani est avec nous, bonjour Manu.
Bonjour Philippe, comment allez-vous?
Ça va bien ce matin, on va parler de la passion de ma vie, on va parler du pain.
Ah oui, oui, sujet très important. Et puis alors en plus on a un plateau d'invités fourni aujourd'hui. On a,
j'ai cru que vous alliez dire Fournil.
Fournil, pas mal.
Presque vous trouvez drôle, Manu.
Pas mal, je valide Philippe, le jeu de mots. Pour faire un autre jeu de mots, on n'a pas la tête et les jambes, mais on a la tête et les mains, parce qu'on a avec nous Steven Kaplan, qui est professeur d'histoire à l'université de Cornell à New York, et qui est, on peut dire, historien du pain, hein, qui vient nous parler de son livre Pour le pain, qui est sorti chez Fayard. Donc ça, c'est pour la tête, hein, pour la théorie. Et puis, la tête et les mains, les mains, c'est notre ami Mahmoud Mcedi, qui a été artisan boulanger, qui était meilleure baguette de Paris en 2018, et qui était déjà venu sur notre plateau. Bonjour Mahmoud. Voilà. Et puis, on a aussi des invités par téléphone. Alors, Mahmoud en 2018, et puis cette année, Tayeb Sahal, artisan boulanger, meilleure baguette de Paris 2020, les saveurs de Pierre Demour, 13 rue Pierre Demour, à Paris 17e. Bonjour Tayeb.
Bonjour.
Bon, alors ça bosse pas mal depuis hier. Vous avez eu le prix hier.
Oui, on s'arrête pas depuis hier tellement. Il y a tellement de monde qu'on n'arrive pas à respirer en fait.
Bon, alors j'explique un petit peu aux auditeurs. Hein, vous avez participé au concours de la meilleure baguette de Paris 2020 et vous êtes arrivé premier.
Oui.
Hein, parmi très nombreux boulangers à Paris. Alors on a avec nous également par téléphone Olivia Polski, qui est adjointe à la mairie de Paris en charge du commerce et de l'artisanat et qui chapeaute un petit peu ce prix de la meilleure baguette. Bonjour Olivia.
Bonjour.
Ça va, il manque personne, on a tout le monde. Alors Olivia, peut-être en introduction, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où est venue l'idée de ce prix de la meilleure baguette? Parce que c'est quelque chose dans l'esprit des gens, ça existe depuis des décennies, mais en fait c'est quelque chose qui est arrivé un peu plus récemment. Comment est née l'idée de ce prix et qu'est-ce que ça veut promouvoir?
Alors, en fait, le prix a été créé en 1994 par Jacques Chirac. Ça perdure maintenant depuis plus de 25 ans, puisque là, c'est la 27e édition. Ah. Et l'idée, c'est vraiment valoriser la profession et les artisans boulangers parisiens. Et d'accompagner, on va dire, la transformation du pain. Là, ça crée une émulation dans tout Paris entre les artisans boulangers. Ils veulent tous faire la meilleure baguette.
Alors, comment se passe le prix? Comment est-ce que les boulangers candidatent? Comment est-ce qu'elles sont dégustées? Par qui?
Donc alors, ils sont invités à participer en partenariat avec le syndicat des boulangers du Grand Paris à déposer leurs baguettes donc le matin même, avant 13h30.
Oui, parce que c'est le pain, ça se mange frais, on rappelle, hein, évidemment.
Exactement. Frais et c'est encore meilleur évidemment, et les produits donc doivent déjà commencer par avoir un certain nombre de caractéristiques obligatoires. Ils doivent mesurer entre 55 et 65 cm maximum, peser entre 250 et 300 grammes et avoir une teneur en sel d'un niveau de 18 grammes par kilo de farine.
D'accord, il y a un cahier des charges précis.
Ouais, ça a baissé cette teneur en sel d'ailleurs en 25 ans.
Comment on sait que la baguette qu'ils amènent, c'est la baguette qu'ils vendent tous les jours dans la boulangerie et pas une baguette qui a été faite spécialement pour le concours?
Ah bah, ils se préparent quand même au concours, mais après ils ont intérêt à faire la même, parce qu'évidemment sinon il y aura de la déception, mais c'est un concours, donc comme pour tout concours, on essaye de faire la meilleure possible.
On essaye de surpasser, d'autant plus que le lauréat devient le fournisseur officiel de l'Élysée.
Exactement. Alors, le lauréat, d'abord, gagne un prix de 4000 euros qui est versé par la mairie de Paris et la possibilité de fournir effectivement le palais de l'Élysée pendant un an.
Oui, alors Tayeb, est-ce que Guillaume Gomez, le chef des cuisines de l'Élysée, vous a passé sa première commande ou pas encore?
Pas encore. On m'a appelé hier et je suis pas... je sais pas quand est-ce qu'on va commencer avec eux.
Alors, en tous les cas...
Pour nous dire.
Google est déjà au courant que vous allez fournir l'Élysée, parce que je vais vous expliquer une chose, mais ce matin, en recherchant votre adresse, l'adresse de votre boulangerie, j'ai tapé sur Google boulangerie Tayeb Sahal, et votre adresse, c'est au palais de l'Élysée. Hein. Vous ferez le test sur Google. Ça, c'est une surprise.
Ah, oui.
Alors, c'est pas le palais hein, que vous livrez, c'est la table du président, hein, Mahmoud.
Exactement, voilà, c'est ça. Chaque premier prix livre la table du président.
Voilà, c'est sa cuisine personnelle, quoi. C'est ça.
Exactement.
Salle à manger
personnelle. C'est ce qui nous différencie des fournisseurs de l'Élysée.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est la table personnelle, la table privée
présidentielle.
Du président. Oui, absolument. Voilà. Ce qui est encore plus prestigieux, on va dire.
Exactement.
Hein. Est-ce que alors vous qui avez le recul, Mahmoud, est-ce que ça change la vie d'un boulanger? Bon, d'ailleurs, vous êtes passé de une boulangerie à quatre, donc ça change peut-être quelque chose.
Ah oui, bien sûr. On avait déjà trois, maintenant on est à quatre, ouais. Et puis il y a aussi l'international qui se rajoute. Mais c'est sûr que ça change la vie, bien sûr. Il y aura les médias, il y aura les plateaux télé, les reportages. Le monde entier s'intéresse à la baguette, et c'est quelque chose que au début on l'ignore parce qu'on est tout le temps dans le fournil, on voit pas le monde extérieur. Et le fait d'avoir gagné le prix, maintenant, on voit l'importance qu'a la baguette dans le monde, en fait.
Est-ce que au niveau de la clientèle, quand le prix est annoncé, dès le lendemain, il y a la queue devant la boulangerie?
Exactement, dès le lendemain. Nous, on a donc un gagné pareil un jeudi soir. Le vendredi, c'était la folie. Et on est fermé samedi, dimanche. Et donc, j'ai le samedi un monsieur qui vient accrocher donc le premier prix sur la vitrine. Et il me disait qu'il y avait la queue qui s'installait devant ma porte alors que j'étais fermé.
Ah oui.
Et les gens pensaient que j'allais ouvrir. Et ils lui demandaient quand est-ce que je vais ouvrir.
Ah oui, effectivement, oui.
Taïeb, vous avez vendu combien de baguettes hier?
Ah, j'ai tellement vendu que j'ai perdu les comptes.
Ah, vous savez, c'est pas, c'était plus de 1000, plus de 2000, ça, en gros, pour un.
Allez-y, Taïeb, le fisc n'écoute pas l'émission.
plus de combien?
Jusqu'à 1000.
Plus que 1000 baguettes.
Et en temps normal, vous en vendez combien?
D'habitude.
Oui, d'habitude.
300 traditions.
Ah, oui, vous avez fait 3-4 fois plus, quoi. Voire, presque 5 fois plus, oui.
Ouais. 5 fois plus qu'elle habitue.
Bon, est-ce que vous savez pourquoi vous avez gagné Taïeb? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre baguette, par rapport aux autres?
Parce qu'elle était bonne et on l'a bien fait. Je l'ai bien préparé.
Mais vous êtes quoi? Un accro de la mie? Vous êtes un accro de la croûte? Vous êtes, qu'est-ce qui vous différencie?
La goût. Elle est, c'est une bonne farine, en fait. J'ai une bonne farine. Et je crois qu'elle est un peu belle, c'est une belle
elle
baguette.
Elle est esthétique aussi.
Oui, elle est croustillante.
Stephen Kaplan, qui est un spécialiste du goût du pain, est-ce que vous arrivez à définir la personnalité d'un boulanger en fonction de la baguette qu'il fait?
Oui, oui et non. D'abord, les critères sont assez simples. Le pain sollicite tous les sens. Donc, il faut d'abord l'aspect, car 80% de nos entrées sont visuelles. Il faut la croûte, il faut la mie, il faut une mâche, c'est-à-dire un premier contact qui n'est pas agressif ou réfractaire. Et puis, il y a les critères régaliens qui sont arôme et saveur. Donc, il faut sur ces 6 critères, il faut remplir tous ces critères-là. Et c'est ça qui nous donne une bonne baguette. Le problème, pour répondre à votre question, qui est une question extrêmement fine, c'est que est-ce que le boulanger, lui, en quelque sorte, s'interroge par rapport à sa baguette? Moi, je suis un défenseur acharné de l'artisanat, mais je déplore que la plupart des boulangers, que je connais bien, ne dégustent pas leur propre baguette. Oui. C'est-à-dire, ils disent, je l'ai fait, donc il est bon. Ça ne suffit pas, et ça explique pourquoi aujourd'hui on mange très peu de pain par rapport à ce qu'on mangeait dans le temps, et pourquoi la baguette est plus intéressante à l'étranger, à Tokyo, à New York, à Toronto, qu'en France.
Parce qu'on fait du vrai pain à la française à l'étranger. Alors, est-ce qu'on ne peut pas rajouter un critère à tous les critères que vous avez listés, qui est celui auditif? Parce qu'une baguette qui craque ou un pain qui craque,
bien sûr,
ça met en appétit aussi, je trouve.
Évidemment, il faut que le pain suscite une certaine concupiscence, et c'est aussi sonore que tactile que aromatique.
Oui, Olivia Polsky, Stephen Kaplan vient de lister un certain nombre de critères. Est-ce qu'il y a des critères précis au niveau de la dégustation, notamment la cuisson? Est-ce qu'on demande des baguettes bien cuites?
Alors, effectivement, en fait, nous, on a donc 5 critères qui sont l'aspect, la cuisson, le goût, évidemment, l'odeur et l'alvéolage. Donc, la meilleure, en fait, nous, on a cherché l'excellence. Donc, c'est vraiment celle qui a le maximum de critères et qui est la meilleure surtout. Donc, on avait de très bonnes baguettes. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Kaplan, c'est qu'à Paris, on a 1100 boulangers maintenant. qu'on en a dans tous nos quartiers et que les Parisiens consomment énormément de pain et de baguettes.
Ils ont fait leur
révolution et on a une chance incroyable à Paris d'avoir un pain magnifique.
Vous êtes du 14e arrondissement, donc je serai gentil avec vous parce que j'habite là, mais vous dites tout de même des choses un tout petit peu, disons, idéalisées. Trois quarts des Parisiens mangent une baguette blanche, lessivée, dénaturée, sans intérêt, insipide.
Ça, c'est vrai, oui. Une baguette bien blanche que commande le Parisien.
Exactement. Ouais. Et même les traditions aujourd'hui sont souvent à peine saisies, c'est-à-dire le boulanger ne faisant pas le travail d'éducation des clients. Le client dit pas trop cuite, c'est-à-dire incorrectement cuite, et on ne peut pas avoir une croûte. Sans avoir une croûte, on ne peut pas atteindre l'apogée sensorielle. Alors, parce qu'il fait un échange d'arômes entre mie et croûte. Et donc, il y a des problèmes.
Je suis d'accord avec vous. Les boulangers font le bon pain. Après, effectivement, il y a pas mal de gens qui réclament du pain pas trop cuit. Et vous avez d'accord, vous avez raison. C'est-à-dire que le pain, en fait, révèle son arôme quand la croûte est bien cuite.
Ouais, Olivia Polsky, vous nous avez chatouillé Steven Kaplan, là. Hein. Oui, alors, non, c'est vrai que, Mahmoud, quelle est la proportion des gens qui demandent une baguette bien blanche?
Beaucoup.
Beaucoup. Et est-ce que le boulanger, lui, il dit, mais attendez...
J'essaye, justement. Je mène un combat et j'ai réussi, par exemple, à changer pas mal d'habitudes. Les gens prenaient beaucoup de baguettes et maintenant, je vends moins de baguettes et plus de tradis depuis que j'ai gagné le prix. Et j'essaye donc petit à petit de changer la mentalité des clients, mais c'est difficile. C'est très difficile.
Oui, d'autant que, on le dit aux auditeurs, le goût se développe à la cuisson. Et c'est avec une cuisson importante, avec une vraie cuisson, que se développent les goûts un peu torréfiés, de la croûte.
Si j'étais méchant, je dirais que les Français, depuis un certain temps, deviennent mous. Parce qu'ils veulent manger du mou. Oui. Et le mou n'engendre pas ni l'arôme, ni le goût. Donc le combat ici, c'est un combat magnifique, mais c'est un travail de Sisyphe. Car le français, que j'adore...
C'est quoi un travail de Sisyphe ?
C'est un travail où vous roulez votre pierre en montant et ça vous retombe dessus.
Dessus, d'accord.
Il faut recommencer. Mais le français, il est blasé. Je sais ce qui est bon. Donc, mais cette baguette-là, est-ce qu'elle est bonne ? Oui.
Ah, elle n'a pas l'air très cuite quand même. Hein.
Non, elle n'est pas,
pas très cuite. Hein, là, franchement.
C'est baisé, c'est trop près donc, du pâton à côté. Mais bon, elle a quand même un aspect assez joli. Mais le français, il va dire je sais qu'il est bon parce qu'il est bon.
Et alors, est-ce qu'elle croustille, Steve ? Pressez-la un peu devant le micro, là, pour voir.
Il y a de la croustillance.
Ça croustille, c'est
assez. Il y a de la croustillance.
Ça va, c'est très bien.
Mais non, mais il faut que le dégustateur se mette en question. Il faut qu'il se demande pourquoi je trouve ça bon. Et il faut qu'il puisse, en connaissance de cause, dire je vais chez lui parce qu'il fait ceci, je ne vais pas chez lui parce qu'il ne fait pas cela. Au lieu de dire...
Ou parce qu'il est en bas de chez moi et c'est le plus près.
Exactement.
Est-ce que le consommateur ne considère pas trop le pain comme un ingrédient et pas comme un aliment à part entière ? Parce que du bon pain, ça peut se manger tout seul. Alors que dans l'esprit des Français, le pain, c'est pour saucer, c'est pour mettre du beurre dessus, c'est pour faire un sandwich. Est-ce que la fonction du pain dans l'alimentation n'a pas changé au fil des ans ?
La fonction a changé de façon spectaculaire et le boulanger n'était pas vraiment sensible à cela. On est passé du pain nécessité, c'est-à-dire la ration de survie, vers un pain plaisir. Et naviguer ce passage est très difficile. Le boulanger supposait que les Français allaient toujours manger autant de pain que dans le temps. Eh bien, ils sont passés de 600 grammes par tête en 1900 à 80 grammes par tête aujourd'hui. C'est triste.
Alors, on va remercier nos deux invités téléphoniques parce qu'ils ont tous les deux un emploi du temps chargé. Olivia Polsky, merci de nous avoir parlé du concours de la meilleure
merci
baguette. Et puis à l'année prochaine,
et
sans doute.
Mahmoud aussi.
Moi aussi, merci.
Oui, tout le monde se connaît un peu sur le plateau. Et puis on remercie Tayeb Sal, qui lui est très sollicité par les télés et la presse.
Oui, félicitations.
Bravo encore, Tayeb.
On va venir faire la queue. Hein.
Voilà. Et puis on va vous envoyer un petit peu plus de monde dans la queue. On va donner l'adresse à nos auditeurs. Donc les saveurs de Pierre Demour, c'est 13 rue Pierre Demour dans le 17e arrondissement à Paris. Faites le déplacement.
Voilà. Bienvenue,
c'est à côté de la FNAC,
elle était là
c'est
hier
ça. À côté du marché, il y a un très beau marché là-bas aussi, oui.
Oui, aussi.
Donc allez goûter la baguette de Taïeb Sahal. Et puis on vous redonnera aussi l'adresse de Mahmoud.
Est-ce que vous êtes ouvert le dimanche parce que
oui, jusqu'à 13h on est ouvert.
D'accord.
Bon, bah aujourd'hui ou demain jusqu'à 13h.
Demain toute la journée, je pense.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci à tous les deux.
À tous les deux. Et on parle de pain jusqu'à 13h. C'est passionnel comme sujet, le pain. Vous avez vu Stéphane Kaplan, qui est peut-être un des plus grands spécialistes mondiaux du pain. Et là, il a commencé à nous expliquer un petit peu tout ce qu'on devait rechercher dans le pain. Si vous voulez intervenir et poser vos questions, vous pourrez le faire. Hein, 01 53 48 3000. Vous êtes même peut-être boulanger, vous nous écoutez. Rejoignez-nous, 01 53 48 3000.
Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM.
Ça rigole pas ce matin. On parle de pain aujourd'hui avec nos invités, Manu.
Donc, oui, absolument. Stephen Kaplan, professeur d'histoire à l'université de Cornell à New York et historien du pain, qui vient nous parler du pain, mais aussi accessoirement de son livre Pour le pain. Un très beau livre, 368 pages passionnantes, qui vient de sortir aux éditions Fayard.
Oui, mais pour donner une idée, ça fait 50 ans que vous travaillez sur le pain.
Oui, c'est pas votre premier livre.
C'est un demi-siècle de recherche scientifique sur le pain. Donc il faut comprendre que, voilà, quand on dit que vous êtes un historien du pain, c'est vraiment une passion chez vous.
C'est une passion, c'est une obsession. Et puis c'est également un souci, parce que je ressens viscéralement le pain. Et c'est un affront quand je déguste un pain qui est médiocre. Donc je veux que ça soit bon et je veux que les gens savent pourquoi il est bon ou pourquoi il est moins bon. Donc...
Mais qu'est-ce que vous y connaissez, les Américains ? De quoi vous mêlez ? Mais alors franchement, mais de quoi vous mêlez ?
De quoi je me
mêle ?
Non, mais... Je m'attendais non, mais là... à l'anti-américanisme primaire et ça c'est aussi primaire que possible.
Ça vous motive quand on vous dit ça, je suis
non,
sûr.
Non, je comprends ça. Les Américains peuvent être très chiants, notamment aujourd'hui, à notre époque. Mais je n'ai pas voté Trump, donc je dois avoir au moins pour cela une certaine mérite.
Mais alors, est-ce que vous qui êtes aux États-Unis, parce que c'est vrai que moi, quand je suis aux États-Unis, je goûte le pain de boulanger français, et j'ai un peu l'impression que quand on n'est pas très bon boulanger en France, on s'expatrie aux États-Unis, et là-bas, on est considéré comme très bon.
C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que je rencontre beaucoup d'excellents boulangers à New York, en Caroline du Nord, à Chicago, en Californie. Il y en a d'autres aussi qui sont des pains qui ont raté en France, un peu comme des agrégés qui ont raté en France et qui se trouvent dans les universités américaines comme le français professionnel de passage. Mais j'éviterai de grandes généralisations. Ce qu'on trouve à New York, au milieu de New York, c'est une grande boulangerie qui s'appelle Paris Baguette, où le pain est dégueulasse, où le propriétaire est coréen. Mais l'idée est formidable parce qu'ils ont réapproprié la culture française, ils ont compris que la baguette était porteuse. Ils ont compris que le pain était quelque chose d'universel, avec un symbolique extrêmement puissant. Ils ont 1700 boutiques dans le monde.
Ah oui.
Et ils sont même au Châtelet ici. Donc, comme disait Libé, mangez votre pain coréen.
Oui. Mais effectivement.
Est-ce que vous arrivez précisément à répondre à cette question ? Est-ce que c'est en France qu'on mange encore le meilleur pain du monde ?
Au XVIIIe siècle, c'était clair et c'était sans équivoque. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a des boulangers formidables, mais il y a beaucoup de pains médiocres. Je peux manger une baguette de tradition à Tokyo qui est meilleure que la baguette de tradition rue de l'Armée Almouchès. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de boulanger tout à fait compétent.
Mais la question était, est-ce que la meilleure baguette du monde se trouve en France ?
Aujourd'hui,
c'est une question que vous posez dans votre livre, c'est pour ça. Donc. Oui.
Aujourd'hui, si on avait les moyens, et moi, encore une fois, je suis très engagé dans la défense de du pain français, j'essaie de susciter des vocations, mais je crois qu'il y a une certaine arrogance culinaire, gastronomique, qui a fait que, depuis Escoffier, depuis bien avant même, les Français se croient intouchables, et ils ont pris des coups. Ils ont pris des coups en cuisine, c'est pas moi à vous dire cela.
Ben c'est pour ça que le coq, c'est l'emblème de la France, parce que même les deux pieds dans la merde, ils crient cocorico quand même. Hein, c'est pour ça.
Donc il faut savoir se mettre en question. Or, je crois que les boulangers, pendant très longtemps, ne se sont pas mis en question, et ça posait un gros problème. Aujourd'hui, on a peut-être 28 000 boulangers qui restent sur les 54 000 qui étaient là en 1955, et la plupart sont dans la routine. Et la routine est étouffante, c'est asphyxiante. Cela dit, métier difficile, métier pénible, métier qui parfois même est écrasant.
Et pas assez valorisé.
Et quand on a en face un terminal de cuisson ou une chaîne ou un GMS, c'est très difficile.
C'est quoi un GMS ?
Grande et moyenne surface, Philippe.
Grande et moyenne surface, pardon. Vous avez bien
raison
de poser la question.
Oui. Alors, est-ce que le pain est toujours réglementé en France ? Parce que peu de gens le savent, mais bon, le pain, c'est réglementé par l'État. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ?
De tout. C'est-à-dire le prix était réglementé. Ça, c'est quand même le rappel que le pain, jusqu'à récemment, était un objet politique. Le prix était imposé, fixé, jusqu'à 1987,
d'accord,
le 1er janvier. Or, il y a un recueil des usages qui indique ce qu'on devait faire. Les boulangers ne le connaissent pas. Et sauf pour la baguette de tradition, il n'y a pas de réglementation qui nous gouverne. On peut faire avec un levain ce qu'on veut. J'ai un chimiste à ma droite, il ne va pas me contredire. Il y a des boulangers qui...
Je ne comprends pas, parce que je crois que vous aviez un boulanger à votre droite. Vous m'expliquez ? Pourquoi vous dites qu'il est chimiste ?
Non, parce qu'il a étudié...
J'ai fait des études de chimie.
C'est un chimiste.
Oui. J'ai fait un an de prépa et puis j'ai fait une licence de chimie à Jussieu.
D'accord.
Alors, justement, Mahmoud, est-ce que d'avoir fait des études de chimie, est-ce que ça aide à faire un meilleur pain, à comprendre ce qui se passe dans le levain ?
Je pense.
Dans
je
le
pense,
vin,
oui, bien sûr. On comprend mieux les dosages, les mélanges. Donc, ce qui fait qu'on a un meilleur résultat. Le fait qu'on maîtrise mieux, en fait, son pétrin, ce qui est le plus important à mes yeux. Donc, c'est pour ça que ça m'a beaucoup aidé, oui, oui.
Oui, alors est-ce que vous n'êtes pas un boulanger moléculaire quand même ?
Non, 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 pas encore. Pas encore.
Jolie idée.
Le El-Bouli de la baguette.
Ouais. Ça va venir.
Oui.
Ça va venir avec les tentatives aujourd'hui de trouver des gluten non agressifs, des gluten qui sont entre guillemets pauvres. Je crois que demain, le boulanger sera un peu chimiste. S'il veut pouvoir distinguer gliatine et gluténine, ça devient un peu compliqué, mais le bon pain, c'est quoi? C'est de la fermentation et encore de la fermentation, et un boulanger un peu chimiste comme Parmentier au XVIIIe siècle sera mieux tiré son épingle de la pâte, si je puis dire, que d'autres.
Alors, vous parliez de gluten non agressif. Est-ce que les gluten aujourd'hui ne sont pas agressifs, justement parce que les industriels, type Monsanto, pour ne citer que le plus connu, ont beaucoup modifié et transmuté les blés qui servent à faire les farines. Est-ce que c'est pas ça qui a... Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent intolérants au gluten, alors que c'est pas des gens qui sont coeliaques, qui sont pas intolérants au gluten, mais beaucoup de gens disent qu'ils ne tolèrent plus le gluten. Est-ce que c'est pas justement cette transformation industrielle des blés ?
Le blé a beaucoup évolué depuis des milliers d'années, mais il faut dire qu'en France, il y a une espèce de complicité entre États qui cherchent surtout le productivisme et les semenciers qui, eux, cherchent le monopole. Donc, il y a ce qu'on appelle en France le catalogue. Si on n'est pas inscrit dans le catalogue, on ne peut pas vendre telle ou telle variété. Pour être inscrit dans le catalogue, il faut que la variété soit distincte, stable et homogène. Très difficile pour un paysan boulanger de remplir ces critères-là, parce que, justement, ce sont des critères qui standardisent et qui réduit à une espèce de minimum syndical les qualités du blé. Or, aujourd'hui, l'industriel, pour ce qu'on appelle la boulangerie industrielle particulièrement parlant, il cherche un niveau de protéines bien plus élevé que, par exemple, un artisan dont un artisan a besoin. Donc, ça va nous donner, évidemment, un gluten un peu plus robuste. Et aujourd'hui, on est capable de faire du bon pain avec un pain à 8-9% de protéines, ce qui nous donne autre chose.
Donc c'est le rendement et la stabilité d'un côté, et le goût et la digestibilité de l'autre, en fait.
C'est le débat. C'est un débat qui n'est pas encore tranché en laboratoire, mais on croit aujourd'hui qu'on peut arriver avec des gluten, des pains relativement pauvres en gluten, à faire un pain qui est en quelque sorte prédigéré, si c'est fabriqué au levain et pas à la levure.
Oui, c'est ce qui est différent, hein, parce que la levure, c'est chimique, le levain, c'est naturel. Enfin, même si le levain, c'est un procédé chimique,
C'est pas gentil, il ne faut pas stigmatiser. Il y a beaucoup de boulangers qui travaillent à la levure, qui semblent quand même, ce sont des ferments vivants, mais faits autrement. le levain, c'est tout un folklore, mais c'est aussi une diversité de micro-organismes qui sont dont des bactéries lactiques, ouais, en particulier, plus des levures sauvages. Ça donne normalement un goût qui est plus intéressant, parfois une acidité excessive. Mais n'oublions pas que la baguette est née parce que les boulangers français, au début du XXe siècle, ne savaient plus maîtriser le levain.
Oui,
et
d'accord.
Donc, on est passé à la levure.
C'est pour maîtriser la pousse, comme on dit.
En quelque sorte, oui. Mais on a réduit la pousse à 10 minutes. On a rajouté beaucoup d'acide ascorbique, beaucoup de sel pour compenser le manque de goût. Et on est héritier maintenant avec la baguette blanche de tous les jours.
Hélas, qui est
quelque chose de triste.
Alors, Mahmoud, est-ce que vous qui êtes artisan boulanger, est-ce qu'on arrive aujourd'hui encore à trouver des variétés de blé anciens qui n'ont pas été transmutés 50 fois par l'industrie? Est-ce qu'on arrive à travailler des bons blés?
C'est difficile d'en trouver. Il faut avoir un bon meunier qui, lui, justement, arrive à trouver donc du blé ancien. Et à partir de là, oui, on peut faire du pain avec du blé ancien bio.
Alors, le meunier, c'est celui qui fait la farine. Donc, les meuniers ne cultivent pas de blé?
Non.
C'est-à-dire que, le meunier peut avoir des fournisseurs divers
et variés. Des agriculteurs. Ou il peut aussi avoir des champs aussi. C'est libre. Mais la plupart du temps, donc, il a des accords avec des agriculteurs qui, eux, justement, favorisent donc les blés de paysans.
La baguette blanche dont vous parliez tout à l'heure, comment est-ce que, Stephen Kaplan, les boulangers en sont arrivés à blanchir leur pain?
Oui, ça c'est la question essentielle. D'abord, le blanc. Pourquoi le blanc? Le blanc, depuis toujours, incarne la pureté, l'ascension sociale, la supériorité. Le blanc était quasiment l'apanage des riches, des gens aisés, des dominateurs. Donc, depuis toujours, les pauvres, les paysans, les journaliers urbains cherchaient à manger du blanc. Donc cette obsession du blanc, ce n'est pas, une chimère gratuite, c'est quelque chose qui a du sens. Or, pour répondre directement à votre question, au XXe siècle, le blanc était attaqué au début du siècle, du XXe siècle. Attaqué par qui? Par une espèce de contre-culture qui existe aujourd'hui, qu'on appelle les paysans boulangers et les turiféraires du bio. C'était attaqué parce que le blanc, pour eux, évincer tout ce qui était bon dans le blé et ne retenait que la partie, disons, le moins nutritif et le moins intéressante. Mais ils n'ont pas pris en compte la dimension psychologique. Il faut que ça soit bon à penser avant d'être bon à manger. Oui. Si c'est blanc, il est bon pour les gens, enfin, jusqu'à assez récemment.
Oui,
après la guerre, on a mangé pendant la Deuxième Guerre mondiale un pain caca. Le Clésio, dans ses romans, disait qu'il y avait des sciures de bois dedans. Il y avait beaucoup de succès.
Mais on ne mangeait pas de baguettes après la guerre.
Après la guerre, on mangeait évidemment beaucoup de baguettes. Bien sûr. Déjà, mais on cherchait après la guerre surtout le pain blanc. Les premiers sondages en 1945 disaient « faut sortir les boches, il faut un pain blanc
voilà ». Et parce que les gens avaient mangé du pain noir pendant la guerre.
Ils avaient mangé un pain terrible. Or, le problème, c'est que la France était en disette, en pénurie, jusqu'au milieu des années 50. Donc, l'État imposait une taux d'extraction de 100% quasiment, obligeant les meuniers de donner une farine bise, obligeant les boulangers de donner un pain qui n'était pas très attractif. On a, par un accident assez extraordinaire, on a trouvé qu'en pétrissant rapidement et très longtemps, on arrivait avec une mauvaise farine à avoir une pâte blanche et gonflée. Donc, ça nous donnait ce qu'on appelle la méthode pain blanc, pétrissage intensifié.
L'illusion d'un pain blanc.
Illusion formidable, parce que pendant quelques années, les gens disaient « Ah, finalement, on a retrouvé l'utopie, on a retrouvé nos racines gauloises ». Et puis, au bout de 2-3 ans, en goûtant, quelques-uns ont dit « Mais c'est pas bon ! C'est pas de tout bon, même c'est insipide, c'est terriblement mauvais. » Et les boulangers...
Et c'est pas digeste, parce que les gluten ne sont pas cuits.
Et en plus, c'est pas ça, digeste. Oui. Mais les boulangers, après la guerre, ont renouvelé leur fournil vétuste, ont investi énormément, matériellement, psychologiquement. Ils s'étaient arc-boutés sur cette méthode, ils ont refusé de changer, ils ont refusé d'admettre qu'il y avait d'autres façons de faire, c'est-à-dire revenir vers ce qu'on appelle plus tard une baguette de tradition. Qu'est-ce qui s'est passé? Une boulangerie industrielle s'est construite en 1960. Boulangerie industrielle, zéro part de marché. Aujourd'hui, boulangerie industrielle, 43% de marché. Pourquoi? Pourquoi? Mais la réponse est évidente. Ah, c'est parce que... Oui, mais c'est parce que...
Si vous devez acheter 4 ou 5 baguettes dans la soirée, c'est la question du prix, elle est importante quand même.
Oui, en 1960, le pain fait par les industriels était un pain de merde. Aujourd'hui, souvent, les meilleurs industriels nous donnent un pain qui est parfaitement mangeable.
Acceptable, on va dire.
Acceptable.
Voilà, acceptable,
et,
oui.
Parfois même,
quand il est frais.
Pas de tout mal. Or,
c'est ça.
C'est quand il est frais qu'il est acceptable. Vous voyez.
Voilà.
Mais les boulangers, au lieu donc de se battre sur le plan qualitatif contre les boulangers industriels, se sont plaints à l'État, se sont mis à genoux en disant « Nous ne pouvons rien, la concurrence est déloyale, aidez-nous, faites quelque chose ». Et encore une fois, aujourd'hui, il y a cette tendance à stigmatiser l'industriel comme l'ennemi. L'ennemi n'est pas l'industriel, l'ennemi c'est la médiocrité. Voilà l'ennemi.
Mais en tant qu'artisan, on se bat tous les jours.
Oui, je sais. Je sais que c'est
voilà, dur. Énormément. C'est très difficile.
Mais vous produisez l'excellence.
On essaye.
Produit remarquable. Et c'est ça la réponse à l'industrie. Ce n'est pas de dire que c'est notre ennemi.
Mais le soir, il vous arrive encore d'entendre à la boulangerie « Je voudrais une baguette bien blanche ».
Oui, c'est vrai. Mais
qu'est-ce qu'on dit aux clients qui réclament ça?
On leur dit que c'est mieux de manger du pain bien cuit, bien sûr. Mais on ne peut pas changer les habitudes, c'est très difficile. Souvent, les gens, ils repartent, ils vont acheter ailleurs.
Parce que ça vous arrive de faire goûter, de prendre carrément une baguette bien cuite?
C'est ce qu'on fait, oui. Des fois, on a même lancé avec mon meunier un projet qui était le pain bien cuit, justement, où on distribue des flyers, on incitait les gens à manger du pain bien cuit.
Ça me plaît.
Mais... C'est un combat qu'on mène tous les jours.
Enfin, moi, j'ai dans des boulangeries, souvent, quand je demande du pain bien cuit, la boulangère me dit c'est le maximum que je peux faire.
Donc,
eux-mêmes, ils n'ont pas beaucoup de pain.
Parce qu'on s'adapte en fonction de nos clients. On a des contraintes, c'est ça aussi. C'est que...
Le propre du pain français, c'est la croustillance.
Mais
on
oui.
perd la croustillance, on devient...
C'est plus du pain.
C'est un pain de quelconque.
Un pain de mie.
Voilà.
Viennoise.
C'est quasiment
ouais,
cela.
C'est ça.
Donc, c'est un combat. Vraiment, les boulangers doivent se mettre ensemble pour se poster entre eux. On ne va pas céder à cette espèce de pression insidieuse qui dit qu'il ne faut pas cuire. On ne peut pas atteindre l'apogée sensorielle sans une cuisson correcte.
Mais ça change. Oui. On vend de plus en plus du pain bien cuit.
Ah, ça c'est une bonne nouvelle.
J'insiste.
C'est une bonne nouvelle.
Voilà.
Steve Kaplan, parce que vous disiez que les boulangers à un moment s'étaient rebellés, avaient demandé à l'État d'intervenir pour essayer de dissocier quand même le pain industriel du pain artisanal. Donc du coup, effectivement, à cette époque, l'État a dit que pour pouvoir s'appeler boulanger, il fallait avoir du pain qui était pétri et cuit sur place. Donc, effectivement, il ne pouvait plus y avoir d'espace boulangerie dans les supermarchés quand c'était du pain industriel. Cela dit, à l'intérieur de la corporation, des boulangers qui font du pain et qui pétrissent sur place et qui le cuisent sur place, tous ne respectent pas les critères et les canons du vrai pain et du bon pain. Qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre?
Hélas, mais
peut-être avant.
Le problème, ça progresse.
Oui. On essaye, en tant qu'artisan boulanger, de faire ce qu'il y a de mieux en termes de qualité. Et de plus en plus, les boulangers font attention, justement. Parce que de plus en plus de boulangeries ont fermé aussi. Il y a la concurrence. Donc chacun va vouloir maintenant chercher la qualité. Donc le boulanger s'est remis en question. Et c'est pour ça que maintenant, on a de plus en plus de boulangers qui font justement de la qualité.
Alors du coup, ça a eu du bon, la concurrence industrielle, parce que ça a ramené la qualité dans les boulangeries. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Plus ou moins, peut-être. C'est possible.
Je crois que c'est vrai, mais l'autre aspect, c'est un aspect malthusien, c'est-à-dire il y a de moins en moins de boulangers artisanaux.
Oui.
Enfin, moi, je constate de plus en plus de boulangers qui ont des viennoiseries qui ne sont pas des viennoiseries qui sont faites sur place.
Et qui ont rejoint le standard de la grande distribution.
Il ne faut pas donner une mauvaise image des artisans boulangers. On se lève très tôt. Voilà, la plupart des boulangers et des pâtissiers ont fait du fait maison. Il y en a peut-être certains qui achètent, mais aussi, c'est aussi une histoire de coût. Mmh. On paye énormément de charges, il faut aussi le dire. C'est aussi facile de critiquer les artisans, mais quand on a des charges, on est soumis.
On ne veut pas les critiquer, on veut justement dire qu'ils doivent rester des artisans.
Mais c'est ce qu'on essaye, il y en a de plus en plus qui redeviennent des artisans.
Mais c'est compliqué, je ne suis pas d'accord avec mon ami à droite, la majorité des artisans boulangers achètent.
Non, il ne faut pas dire ça. C'est
on continuera après la page de pub.
La vaste majorité.
Steven Kaplan, vous restez avec nous. Et puis vous abordez dans votre livre des sujets qui sont peu abordés. C'est l'origine ethnique des boulangers qu'on voit en France et la féminisation de la profession. Vous restez avec nous. Dessous de table, c'est jusqu'à 13h ce Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
parle du pain aujourd'hui. Il y a du pain sur le plateau.
Et pas, de l'ambiance, hein, Philippe.
J'ai vu un couteau sorti. On n'a toujours pas goûté le bout du pain. Hein.
Ah oui.
Ah non, là, c'est bonne capacité. Dites donc, vous sortez équipé, vous. Hein.
C'est dans l'avion que je sors ça. Et non, ça, c'est.
Il est magnifique, votre couteau.
Vous laisse rentrer
un vrai couteau à pain.
Aussi, oui.
Ouais, alors, un opinel à pain. Un couteau suisse à pain.
Oui, c'est ça.
Jamais vu ça.
Ça me permet d'organiser une dégustation à l'improviste.
À tout moment.
N'importe où. Voilà.
Mais là, on coupe 10 baguettes en même temps avec ça.
Et on coupe ses mains aussi. la première fois que j'ai fait ça, je coupais comme un mof, comme ça. J'ai ouvert toute ma poitrine. J'étais à cochin pendant une demi-journée. Donc,
ah oui,
je fais attention maintenant.
Vous faites un métier dangereux, Steve Kaplan. Hein.
Bien, alors dans votre livre, vous abordez la question ethnique de l'origine des boulangers, qui est rarement... abordé. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, en 50 ans ?
Je constate plusieurs choses. D'abord, je constate la fiction républicaine en France qui dit qu'il n'y a pas de couleur, que tout le monde est citoyen, gaulois, blanc et parfait. On n'a pas le droit en France de travailler des chiffres comme cela. Pour moi, il me semble absolument impératif à l'université, à la fac de médecine, à la boulangerie, de savoir s'il y a diversité ou pas, s'il y a l'entrée des gens qui, jusque-là, étaient exclus pour diverses raisons. Peut-être je fais ça parce que quand j'étais, moi, étudiant à Princeton il y a 50 ans, il y avait le droit d'avoir 30 juifs, 60 catholiques et tous les autres étaient protestants. J'ai très mal vécu ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est important d'être attentif à ce qui se passe. Les Français ne savent pas qu'à peu près, la moitié ou un bon tiers des boulangers parisiens intramuros sont d'origine maghrébine. Et ça, c'est une culture de pain tout à fait remarquable. Des gens qui sont excellents, des gens qui sont aussi médiocres. Il y a les deux. Je vous lis rapidement juste quelques mots de mon livre. Déjà en 2018, un jeune parisien dont le père était né à Bizerte, en Tunisie, meilleur ouvrier de France à 24 ans, a décroché le premier prix dans le concours de la meilleure baguette de la capitale. Un de ses projets, fonder une école de boulangerie à la française en Tunisie. 2013, un franco-tunisien devient à son tour lauréat. Entre les deux, un Français d'origine sénégalaise a réalisé l'exploit sans précédent de gagner le prix deux fois. Trop consommé TS en informatique pour le pétrin, un jeune d'origine marocaine obtient la première place dans le concours de la baguette de Saint-Saint-Denis. 4 des 10 premiers boulangers de palmarès parisien de 2017 sont d'extraction maghrébine, un autre est franco-sénégalais. Le grand gagnant est un reconverti ancien restaurateur formé à l'école d'une grande enseigne meunière. En 2018, le premier à ma droite et le 8e boulanger sont eux aussi d'origine maghrébine, comme 2 des 10 premiers en 2019. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la France se modernise, que la France s'ouvre, que ce n'est pas la France de Mme Le Pen, que ce n'est pas
c'est
la
beau.
France uniquement faite pour des gens dites de souche, que le pain est démocratique et ça attire des gens qui sont investis dans une notion égalitaire de l'accès à les choses.
Et vous dites qu'un tiers des boulangers à Paris sont d'origine maghrébine. Mais parmi les lauréats de la meilleure baguette, c'est 50%, c'est pas un tiers.
Exactement, hein? Exactement. Il y a une percée spectaculaire, et ça veut dire d'une part qu'ils sont très très motivés, et d'autre part qu'ils sont d'une compétence supérieure. Voilà, c'est très simple.
Alors ça se retrouve aussi dans la pizza, cette percée de l'excellence, de la diversité.
Mais je suis content de pouvoir dire ça, parce que je n'ai pas le droit de dire ça ailleurs. Et quand je me trouve à France Culture ou ailleurs, les gens sont extrêmement accueillants, ils ne me posent jamais cette question, qui est pour moi très importante, tout comme la question de féminisation.
Ah, mais ici, vous êtes sur Beurre FM. Donc vous pouvez tout dire.
Et on a lu votre livre.
Voilà.
C'est bon, peut-être la différence avec France Culture.
Qui est très différente, oui.
mais... Alors, c'est vrai que, alors, sans aller plus loin dans l'ethnicisation, on a quand même l'impression que c'est devenu aussi un terrain où les Tunisiens sont très présents.
Oui, Tunisiens...
Ceux de la boulangerie.
Oui, c'est sûr. Parce que,
et comment ça s'explique, finalement ?
Le fait d'être Tunisien, on a une double culture, et notre culture en Tunisie, on a l'amour du pain. On ne peut pas manger quelque chose sans pain. Le couscous... Moi, personnellement, quand je mange un couscous, j'ai forcément une tranche de pain avec.
Ça va tellement bien ensemble.
C'est... Bah oui.
Au cas où vous n'auriez pas assez à manger.
C'est obligé. Donc, c'est pour ça que les Tunisiens sont devenus peut-être très, très forts dans le domaine du pain. Oui, c'est sûr.
Alors, la Tunisie aussi, elle n'est pas loin. C'est le pays du Maghreb le plus proche du Moyen-Orient. Steve Kaplan, certains boulangers disent que le pain prend ses origines au Moyen-Orient. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
Probablement. Tout part du Moyen-Orient il y a 6, 7, 8000 ans. Donc certainement le premier pain était égyptien, sinon c'était de la Mésopotamie.
Mésopotamie, ouais.
Merci. Donc il y a une espèce de vision tout à fait légitime de s'identifier avec un très très long passé.
Et bien un petit voyage étymologique aussi autour de la Méditerranée, parce qu'on la pita, on a la pita en Égypte, qui remonte par la Turquie, puis qui arrive ensuite pizza en Italie.
Oui.
Et puis même si on traverse la frontière française, pizza saladière.
Bien sûr. Et n'oublions pas que quand il y a de l'instabilité politique en Tunisie en 2008, 2007, 2008, encore en 2011, en Égypte, au Soudan, ça part souvent du prix du pain.
Ah oui.
Et même parfois aussi de la qualité du pain. Jeter un pain noir devant un prince ou un président, c'est lui dire il ne sait pas gouverner.
C'est
mauvais pain,
suprême.
Mauvaise gouvernance.
C'est pire que de lui jeter une babouche à la figure.
Alors cette fameuse baguette tradition dont on parle, moi je ne l'ai pas connue enfant. Ça a toujours existé la baguette tradition?
Créée le 13 septembre 1993 par M. Balladur, après 8 ans de négoce dirigé par la répression des fraudes avec tous les parties prenantes. Il fallait 8 ans pour éventuellement nous donner ça. C'est quoi cette baguette de tradition? C'est l'obligation des boulangers de retourner à des pratiques ancestrales, c'est-à-dire surtout au pointage. Le pointage, c'est la première fermentation prolongée qui nous donne tous les arômes et tous les goûts et qui donne aux boulangers également les qualités dites rhéologiques, physico-chimiques, qui permettent le pain, le pâton, à subir tous les ravages de la panification.
Alors justement, c'est très intéressant parce que j'en parlais avec Philippe hier quand on préparait l'émission. J'ai l'impression, cette baguette tradition, en fait, pour moi, qu'avant qu'elle s'appelle baguette tradition, de l'avoir toujours connue, parce que le pain de mon enfance, c'est la baguette tradition qu'on trouve aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, ça s'appelait une baguette. C'est-à-dire qu'en fait, on a rendu ses lettres de noblesse à la baguette sans pour autant tuer son avatar moderne.
C'est tout un débat. Moi, j'ai été formé et j'ai passé 3 mois dans une boulangerie en 1969. On faisait un pain dégueulasse. On faisait un pain avec des pastilles. Le boulanger me disait, mettez encore un pastille, acide ascorbique. Mettez encore un correcteur. Et le pain était hyper blanc, en pétrissé.
Presque sucré.
En pétrissé, 18 minutes en première, 7 minutes, 10 minutes en seconde. C'était oxydé, c'était horrible. Or, des meuniers remarquables comme Philippe Viron, qui était un des grands princes de la meunerie, oui, me parlait, lui, de ça, de mémoire d'enfance des années 30, des années 30, d'une baguette qui était formidable. Je me demande si c'est imaginaire ou si c'était vrai. Car le gros problème avec la baguette, on a commencé à en faire juste avant la Première Guerre mondiale, c'était qu'on avait réduit le pointage, la première fermentation à 10 minutes, à 15 minutes. Ça ne suffit pas. Ça ne peut pas donner un pain de qualité.
Alors, les boulangères, il y en a quelques-unes?
Il y en a de plus en plus.
Il y en a,
c'est
oui,
formidable.
De plus en plus, oui.
Et depuis, notamment, qu'on a réduit le poids des sacs de farine à 25 kilos. Dans le temps, c'était 100 kilos. Puis, c'était 50.
Ça,
et c'était un peu trop. J'ai mis une fille japonaise en apprentissage il y a 15 ans, et elle avait du mal avec 50 kilos de et puis il y avait un machismo, il y avait un harcèlement, il y avait un manque de
comme dans la cuisine un peu.
C'était exactement parallèle.
Et dans la boucherie, hein, aussi. Ouais,
oui, 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 oui. Et puis après, il y avait les filles de Ghana Show qui sont allées à l'Institut de National de Boulangerie.
La flûte Ghana.
À Rouen. Il n'y avait pas des toilettes pour les femmes. Il fallait les créer. Donc maintenant, on a de plus en plus de femmes. Je les trouve très focalisées, extrêmement sensibles, parfois des très grandes créatrices. Donc je les encourage énormément.
On le disait avec Philippe dans une émission sur la viande, la bouchère, c'est la femme du boucher. Est-ce que la boulangère aujourd'hui, Mahmoud, c'est la femme du boulanger ou est-ce que
ça change?
Il y a de plus en plus de boulangères.
Il y a de plus en plus de boulangères, pas forcément, oui. Mais
et ça nous oblige de repenser la notion.
C'est
et
quelque puis, chose de nouveau.
Et,
oui.
Et puis la pièce de pagnol va pas avoir du sens. Par exemple, quand il y a
la femme du boulanger, oui, c'est fini là.
Ouais, quand il y a beaucoup de boulangers homosexuels, et il y en a, c'est pas leur femme, c'est leur homme qui
oui,
est.
Oui.
Donc le boulanger.
Dans le Marais notamment, le Guéchoc qui a ouvert plusieurs.
Par exemple.
Ouais.
Donc ça change.
Et c'est son vrai nom, le gay, hein. C'est pas parce qu'il est gay, hein. Je précise.
Et c'est une bonne chose, ça. Encore une fois, c'est la diversité en action. C'est une chose très positive pour la France.
D'ailleurs, Manu, vous nous avez rapporté quelques pains de là-bas. Ça a de drôles de formes.
Avec des formes bizarres. Ouais,
voilà, franchement, Manu.
J'ose pas demander.
On vous montrera les photos.
Il y a des modes dans le pain avant, on mangeait des épis, vous savez, des couronnes, ça n'existe plus, hein, c'est plus demandé. Hein.
De moins en moins.
Qu'est-ce que les clients demandent aujourd'hui?
Maintenant, on revient à la mode des gros pains, à la coupe, des miches.
Ah oui, au poids, qu'on achète au poids.
C'est ça, parce qu'il y a plus de saveur, ça se conserve plus longtemps, donc c'est quelque chose qui est nouveau maintenant.
Oui, alors, ouais, c'est vrai que moi, je suis plus un amateur de croûte que de mie, donc c'est vrai que je consomme peu de bon pain, de gros pain, pardon. Mais c'est vrai que de plus en plus, aujourd'hui, il y a un vrai travail sur les gros pains, parce que c'est vrai que ça aussi, c'est un souvenir d'enfance. Vous parliez des souvenirs d'enfance, Steve, les souvenirs d'enfance de ces croûtes qui étaient torréfiées, qui développaient des goûts de chocolat, un peu de cacao, de café même parfois. Enfin, voilà, ça, c'est des choses qu'on a du mal à trouver. Alors heureusement, il y a des boulangers comme Mahmoud Mcedi qui font un vrai travail sur le goût, sur la cuisson, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on ne retrouve plus ça. Aujourd'hui, un pain de campagne où certains appellent ça des pains bûcherons ou autres, enfin les gros pains, que ce soit des petites miches,
des grosses miches. On disait un pain de livre.
Ouais, c'est ça, un pain de livre.
Mais un pain de campagne à Paris, il y a 25 ans, c'était ce qu'on appelait des travestis enfarinés.
Ouais,
c'était de la fraude. Aujourd'hui, un pain de campagne, c'est 20% de seigle, c'est 80% de froment, c'est fait à la base dans le vin, parfois de seigle, parfois de froment, et en longue fermentation. Et ça, c'est un travail magnifique et ça nous donne des goûts envoûtants.
On rappelle le livre de Steven Kaplan, Manu.
Oui, Steve Kaplan, le livre Pour le pain, un livre passionnant, 368 pages qui se lisent comme ça, d'un trait. 22€ chez Fayard, qui est sorti donc récemment. Il est disponible, vous pouvez l'acheter.
Et donc, ça nous fait combien de tradis chez Mahmoud, là, à 22€?
Alors, je ne sais, à 22€, ça fait, je ne sais pas, 18 tradis. 20 tradis.
20 tradis.
20 tradis. Et puis, on rappelle l'adresse de sa nouvelle boulangerie, hein, bio. La boulangerie Mcedi de Lambre, 27 rue de Lambre, 75014, qui a ouvert il y a 2 semaines.
C'est ça.
Voilà, passez un très très bon week-end sur Beurre FM et bon appétit.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.